Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Geek. On est content de vous retrouver pour cette émission sur la culture geek avec un thème cette semaine, un thème qu'on abordera encore, je crois, la semaine prochaine. Il s'agit des contes et on va en parler avec, bien sûr, comme chaque semaine, Marjorie. Salut Marjorie, comment ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Merci de m'avoir remplacé au pied levé la semaine dernière. J'ai encore un peu le nez pris, un peu le nez bouché, mais j'ai ouï dire par plein de sources tout à fait fiables que tu avais fait merveille et que ça avait été très agréable à la fois pour les gens qui avaient participé avec toi à l'émission, mais aussi pour les auditeurs, d'entendre ta jolie douce voix parler. La semaine dernière, c'était quoi le sujet ?
C'était les robots.
Les robots, voilà. Un beau sujet. Moi, j'étais occupée ailleurs. Et puis Chloé aussi, qui nous a rejoint aujourd'hui. Salut Chloé, comment on va ?
Bonjour, ça va, très bien.
Merci aussi de prêter ta jolie voix pour cette émission. J'ai dit qu'on allait parler des contes et c'est un sujet dont on voulait parler depuis longtemps et dont tu voulais parler toi aussi, Chloé, depuis longtemps. T'es particulièrement fan des contes ?
Oui, c'est quelque chose que j'ai étudié depuis que je suis toute jeune. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté moral des contes. Et puis il y en a de toutes sortes. Donc voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite et je trouve que c'est chouette. Voilà.
Et toi, Marjorie, les contes, c'est un truc qui te fait marrer. Alors en termes de cinéma, à l'origine, les contes, c'est chez Disney, c'est les dessins animés qui après ont été repris sous forme de film. C'est-à-dire que voilà, Disney, ils ont un sujet, ils le traitent d'abord en dessin animé, après ils en font un film. Mais au-delà de ça...
Et je connais tous les Disney par cœur. Et je suis une grande fan des contes, je les ai étudiés pendant mes études et j'aime beaucoup leur sens caché.
Et du coup, les 100 dalmatiens, c'est tiré de quel conte à l'origine?
Ce n'est pas un conte, c'est une histoire originale Disney.
Alors, les contes, pourquoi est-ce qu'on parle des contes dans cette émission sur la culture geek ? Voilà une excellente question que je me pose à moi-même et que je vous pose, bien sûr. L'idée, je crois, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qui caractérise un conte ? Quelle est la différence entre un conte et une fable ? Et quelle est la différence entre un conte et les histoires originales de la culture geek, pour être large, qu'on peut lire aujourd'hui, qu'on peut aller voir au cinéma ou même auxquels on peut jouer sous forme de jeux vidéo. Alors je vais te passer un peu la parole, Chloé, sur les contes. Alors on va parler dans quelques instants de psychanalyse autour des contes, alors on fera rien de très, très compliqué, hein, rassurez-vous. Mais d'abord sur la valeur du conte. Quel est son but, quel est son objectif au conte, à la personne qui le rédige, à la personne qui l'annonce. Et est-ce que, question subsidiaire, voilà, je fais des questions à rallonge, après je me tais pendant 10 minutes.
Ça nous avait manqué.
Ça vous avait manqué.
Le problème, c'est que je ne vais pas me rappeler du début de la question, en fait.
Alors d'abord, la valeur des contes et ensuite l'origine des contes. Est-ce que c'est d'abord écrit ou est-ce que c'est d'abord un support oral ?
Le conte, à la base, restait quand même un support oral parce que c'était des histoires qui étaient racontées de village en village et qui ensuite ont été repris par des écrivains, des conteurs très très connus. On prend l'exemple de Perrault, on peut prendre l'exemple des frères Grimm. Mais voilà, ils ont repris quand même des histoires qui étaient dans le folklore, les folklores régionaux, dans certaines régions. Et,
on pourrait dire que Perrault et Grimm, c'est des bardes finalement qui ont mis par écrit ce que d'autres ont chanté avant eux.
On peut dire ça.
Je vais un petit peu vite, je fais un raccourci historique, pardonnez-moi, mais... Voilà, dans l'idée, c'est ça.
C'est ça.
Mais de tout temps, les contes ont finalement servi à apprendre des choses. On pense souvent, quand on parle d'apprentissage, à apprendre aux plus jeunes, aux enfants. Et c'est vrai qu'il y a un vrai message pour les enfants, mais pas que. Je pense que l'histoire en général, mais pas l'histoire avec un grand H tel qu'on la connaît, mais le fait de raconter des histoires, la narration, avait pour but de véhiculer des messages. Alors parfois d'ordre journalistique, c'est un peu ce que les bardes faisaient, il s'est passé tel truc à tel endroit et on le raconte en vers, on le raconte avec... avec des jolis mots, hein, quand je dis barde ménestrel, mais aussi une valeur de éthique un peu, quelle éthique on veut porter.
Au tout début, les contes, ils étaient pas, c'était pas forcément pour les enfants, effectivement. C'est venu beaucoup plus tard, c'est-à-dire que derrière, on a eu effectivement la question des contes qui devenaient des supports, pour l'apprentissage, le fait de se comparer à un héros, le fait d'apprendre, dans certains contes, la rivalité fraternelle, des choses comme ça. Mais à la base, c'était les contes. C'était l'éducation de la population et du peuple en général. C'était pas forcément que les enfants. On avait aussi un peuple qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. En tout cas à l'époque, enfin très peu de personnes, et donc qui, en entendant ces contes qui étaient racontés par effectivement les bardes, les conteurs, avaient une certaine morale, et voilà, c'était un peu comment on devait se comporter pour, bah pour bien finir à la fin, quoi. C'était surtout ça.
Alors deux conteurs finalement célèbres, c'est Homère. Voilà, c'est très très longtemps, à l'Antiquité, quand il raconte l'Iliade et l'Odyssée, on n'est pas forcément sur un récit historique, évidemment, mais il y a une valeur, sur, une valeur éthique, morale sur l'Iliade et l'Odyssée. Et un autre conteur célèbre, avant de parler des contes un peu du Moyen-Âge et après, on est sur RCF, et bien finalement, c'est Jésus. Les paraboles, voilà, ce sont des contes, et ils ont cette valeur-là de dire... On raconte une histoire et c'est en racontant une histoire qu'il y a aussi une morale, pour le coup religieuse, qui passe. Tu disais, Chloé, je vais te passer la parole, Marjorie, du coup, là-dessus. Donc, il y a cette valeur morale, cette valeur parfois religieuse, cette valeur éthique, mais c'est aussi le divertissement. Finalement, les contes, la soirée où voilà, il y a un conteur qui vient, alors que ce soit quelqu'un de la famille, de l'entourage, qui raconte à ses enfants, à sa famille, ou quelqu'un qui vient et qui compte à tout un groupe, ou tout un village, toute une salle de château, c'est aussi la soirée un peu culture, narration, récit. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le cinéma, finalement, quand on va voir un bon film.
Mais de toute façon, de tout temps, je pense, écouter des histoires, ça a toujours été source d'apprentissage, puisque qu'on regarde un film, moi j'ai appris tout ce qu'il fallait savoir sur la Seconde Guerre mondiale en regardant la liste de Schindler. Enfin, j'ai pas tout appris, mais une grande partie en tout cas. Après, d'autres films à but historique, c'est pareil. Les contes, oui, ça vous apprend des choses. Et le barde, quand il venait, non seulement on avait le divertissement parce que ça passe par la chanson, mais en plus on apprend des choses, on apprend les nouvelles un petit peu du monde. Et puis on a tendance à mieux apprendre et à mieux retenir, surtout si ça s'est fait dans le plaisir, en fait. Donc si on a plaisir à regarder un bon film, on apprendra beaucoup de choses. Et si on a plaisir à écouter une bonne histoire, on apprendra plus facilement la morale.
C'est un peu comme toute l'histoire, là je vais carrément aller sur un autre sujet, mais quand on parle d'histoire avec un grand H, je sais que très souvent, quand on parle aux étudiants, ce qui les passionne beaucoup plus, c'est les anecdotes de l'histoire pour apprendre la grande histoire et qui permet derrière bah oui, de beaucoup mieux retenir que effectivement les dates 1515 Marignan, oui, enfin, ça veut dire quoi derrière, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on intéresse effectivement le public.
Et j'allais y venir, quand on parle aujourd'hui un peu de technique, de marketing ou de manipulation, parfois ça se ressemble un petit peu, on parle de storytelling, c'est-à-dire que pour faire passer un message et que les personnes l'intègrent et le retiennent, le fait de raconter une histoire rend ça efficace. Je pense que c'est une façon dont le cerveau humain fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'on retient très bien la narration. Il y a beaucoup de travaux sur la mémoire aussi qui fonctionnent comme ça. Si vous voulez avoir une excellente mémoire et retenir une suite de chiffres absolument improbables, eh bien vous placez des chiffres dans votre maison à des endroits clés, et puis quand vous voulez retenir ces chiffres, eh bien vous faites le parcours dans la maison, mais vous le faites mentalement, c'est-à-dire que vous racontez une histoire en disant bah, je vais sur les tantalins, je vais à chiffre numéro 1, je vais ensuite à mon frigo, à chiffre numéro 2, etc. Et retenir le parcours est beaucoup plus facile que de retenir la suite de chiffres. Donc effectivement, notre cerveau, il est fait sans doute pour retenir ces histoires-là. Et c'est en ça que ces contes et que tous ces récits ont leur force, c'est que bah, effectivement, retenir une histoire, c'est quelque chose qui est facile pour le cerveau humain et dont on a très envie. C'est peut-être lié au souvenir d'ailleurs, à la capacité que l'humain a à se souvenir de choses. Et le lien avec le fait de retenir et d'aimer les histoires, il y a peut-être un lien qui est assez fort entre les deux. En revanche, quelque chose qui est présent effectivement dans les paraboles ou dans les fables, qui sont aussi des histoires, c'est qu'à la fin, il y a une morale, une vraie morale. Il y a une morale qui est très claire, qui tient en deux ou trois lignes, où on sait exactement finalement ce que l'histoire a voulu dire. En revanche, dans les contes, vous n'avez pas toujours à la fin une morale très claire. Si on prend Cendrillon, par exemple, pour citer Cendrillon, il n'y a pas à la fin de l'histoire la morale. Si vous voulez, si vous êtes une femme et que vous voulez vivre riche, eh bien, perdez votre chaussure et séduisez un beau prince, tout se passera bien. Voilà, il n'y a pas cette phrase-là qui est dite clairement dans les contes.
C'est-à-dire que dans les contes, c'est beaucoup plus en subtilité. C'est-à-dire qu'on va avoir voilà, des points très particuliers qui sont abordés dans chaque conte, qui vont être des messages cachés ou pas tant que ça, mais qui vont se durer tout le temps du conte. Et puis par rapport aux fables, effectivement, on connaît très bien les fables de La Fontaine, c'est les plus connues, où il y a vraiment une phrase de fin qui dit voilà, la morale de l'histoire, c'est ça. Après, c'est des choses qui se ressemblent, mine de rien, c'est juste la forme qui est un peu différente. Pour moi, c'est plus court une fable, effectivement. Général.
Dans les contes, il y a aussi plusieurs niveaux de lecture, parce que dans un conte, on peut entendre aussi beaucoup de morales différentes. Ouais. Et selon l'âge qu'on a, en fait, on peut le lire d'une manière totalement différente. Enfin, si on prend La Belle au bois dormant, quand on est un enfant, on se dit bah, il faut obéir. Il faut obéir, il ne faut pas désobéir, et comme ça, tout se passera bien. Quand on est adulte, bon, on pense différemment, mais... Après, c'est tout le pouvoir aussi des contes qui s'adressent à tous les publics. Et ça, c'est...
Alors, c'est vrai qu'on parlait des fables tout à l'heure, avec la morale extrêmement claire. Le fait que dans les contes, la morale ne soit pas aussi claire, moi, je trouve que ça renforce encore, justement, cette imprégnation éthique. C'est-à-dire qu'une morale qui est établie très clairement, on peut dire, bah voilà, moi, je ne veux pas faire comme ça, j'ai bien compris la morale, mais je veux faire autrement. Dans les contes, vu qu'on n'extrait pas forcément de soi-même la morale du conte, eh bien, l'histoire reste quand même. Et donc, c'est très fort comme imprégnation. Moi, je pense un petit peu quand je parle des contes... à ce film de Christopher Nolan, Inception, où effectivement il y a cette toupie voilà, dans un niveau de rêve qui est un petit peu profond et qui fait que bah, voilà, il y a quelque chose qui est engagé chez la personne. Bien, quand on ne dit pas l'objet de ce qu'on est en train de faire, quand on ne dit pas pourquoi est-ce qu'on fait un jeu, quand on ne dit pas pourquoi est-ce qu'on est en train de lire un conte, quand on ne donne pas la morale de manière explicite, et bien finalement l'histoire reste dans la tête, mais cette morale un peu cachée finalement elle imprègne du coup la personne. Alors en parlant de choses qui restent un petit peu dans la tête, je voudrais que tu nous parles, Chloé, juste deux petites minutes pour l'introduire, et puis on en reparlera après la pause musicale, de ce livre de Bruno Bettelheim, c'est ça ? Ouais. Psychanalyse des contes de fées.
Alors ça a été mon livre de chevet. Alors, pas le garder en livre de chevet, hein, parce que ça reste quand même une lecture assez compliquée, mais c'est un livre vraiment intéressant. Bruno Bettelheim, il reprend tous les contes de fées, et effectivement il travaille dessus, alors avec sa propre idée, hein, c'est-à-dire qu'il va aborder certains sujets, on est d'accord ou on ne l'est pas. Voilà, je prends deux exemples qui je trouve sont assez parlants. Il parle notamment par exemple de Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or et les trois ours, pour lui, qui est clairement la recherche de son identité. Je m'assois ici, c'est trop grand, c'est trop petit. Alors,
on peut rappeler l'histoire très rapidement de Boucle d'or et les trois ours.
Boucle d'or et les trois ours, c'est une petite fille qui est seule dans la forêt, qui arrive dans la maison donc où habitent trois ours, donc le papa, la maman et l'enfant. Et donc elle va goûter chaque soupe, il y en a une qui est trop chaude, il y en a une qui est trop froide, et puis celle qui est parfaite, celle du petit en général. Pareil pour le lit, pareil pour le fauteuil. Et je trouve qu'effectivement, pour ça, Boucle d'or et les trois ours vient effectivement... travailler sur la recherche d'identité d'un enfant ou même d'un adulte derrière, c'est toute cette question-là. Et puis, il parle aussi de Cendrillon, on en a déjà parlé tout à l'heure sur un autre versant, mais notamment, il parle de Cendrillon et puis de tout ce qui est rivalité fraternelle. Chaque enfant a connu ça quand il y a des frères et sœurs. Ça a existé, ça existe et ça existera, c'est-à-dire que on a tous pensé à un moment donné que nous avions des demi-frères et des demi-sœurs, qu'on était élevés par une marâtre et qu'on était des incompris. Je pense que Cendrillon vient un peu travailler là-dessus et se faire aussi se poser certaines questions. Quoi.
Il explore du coup, hein, l'univers des contes, surtout de Perrault et de Grimm, c'est ça, hein, avec voilà, ce regard un peu psychanalytique.
Ouais.
Alors évidemment, comme c'est de la psychanalyse, il peut y avoir parfois un côté assez sexuel aussi dans les contes, qui est évidemment exploré aussi par Bruno Bettelheim, c'est ça.
Ouais.
Alors on peut penser au Petit Chaperon Rouge, qui est l'un des plus connus par rapport à effectivement ce questionnement autour de la sexualité et du conte. Voilà, qu'est-ce qui est incarné, qu'est-ce qui est représenté par ce conte-là.
C'est-à-dire que dans l'idée de Bruno Bettelheim et puis dans l'idée de ceux qui recherchent sur cette question-là, le loup est clairement un jeune homme, en fait, un jeune homme qu'elle rencontre, qu'elle va suivre, et derrière il existe une expression très connue où on dit elle a vu le loup. Je pense que ça vient aussi un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd certainement sa virginité, peut-être trop tôt et très vite. Voilà, en tout cas c'est le positionnement. Est-ce que Charles Perrault a voulu dire ça lui à ce moment-là? Bon, dans l'histoire d'origine ça a l'air assez clair, mais voilà, après c'est une lecture du conte. Ça ne veut pas dire que c'était exactement ça derrière.
Chez La Petite Sirène, il y a un peu la même chose. Alors, non pas l'histoire qui se termine bien de Disney, mais effectivement, cette idée de la fille qui va quitter son milieu d'origine, donc sa famille, donc celui de la mère, hein, parce que c'est La Petite Sirène, pour aller effectivement sur le milieu de la terre qui est celui de son mari. Il y a cette idée hein, de la femme, de la jeune fille qui quitte sa famille, prend dans une autre famille. Alors après, avec des fins plus ou moins heureuses ou pas, en fonction de savoir si le prince retourne dans l'eau et se noie, ou si c'est la petite sirène qui est malheureuse sur Terre. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Mais effectivement, voilà, c'est aussi des contes, par contre, qui sont le reflet d'une époque et souvent qui ont un regard sur les femmes qui est celui de l'époque où il a été écrit et où effectivement les femmes ne sont pas là pour brandir des épées et pour réussir par elles-mêmes. C'est souvent dans leur relation avec un homme. C'est souvent que ça se passe, enfin, c'est souvent comme ça dans les contes.
D'ailleurs, il y a très peu d'écrivains de contes qui sont des femmes. Mais sinon, on aurait eu des contes bien différents à se mettre sous la dent, je pense.
Alors après, on va le voir, il y a des contes modernes dans la culture geek. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et puis on va poursuivre après cette émission en se posant la question justement de se dire, eh bien, dans la culture geek, est-ce que ce ne serait pas une version moderne des contes, des choses comme Le Seigneur des Anneaux ou comme Star Wars ? Essayer de vous mettre une musique un peu onirique pour rester dans cet univers des contes. Voilà, une musique du film Le Dernier des Mohicans. Voilà. Alors, on parlait hein, psychanalyse et contes de fées, hein, qui est un livre de Bruno Bettelheim. Et je vous disais, avant cette pause musicale, on va poursuivre avec cette analogie avec les univers geeks. Alors, on va en prendre deux, puisque voilà, cette émission ne fait pas 45 minutes, elle en fait 25. Je propose qu'on commence par Le Seigneur des Anneaux, avec cette idée de se dire, finalement, Le Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est pas un conte moderne ? Est-ce que c'est pas effectivement un récit et qui porte bien sûr cette volonté de divertir, mais aussi avec un aspect un peu éthique à l'intérieur et avec une morale que veut faire passer l'auteur, Marjorie.
Alors, clairement, Tolkien est un de ces auteurs qui donne du sens à son récit. Ce n'est pas juste pour divertir, il y a aussi une vraie...
On n'est pas devant Twilight, quoi. On a vraiment envie de faire quelque chose avec le récit. On n'est pas juste là pour faire rire la ménagère de moins de 40 ans, c'est ça ?
C'est ça. On est aussi là pour réfléchir. Et d'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, on peut voir tous les bons composants qui font un très bon récit et aussi un très bon conte. On a la nature, on a des créatures mystiques, un peu magiques. On a beaucoup de magie, puisqu'on a un magicien. Trop bien. Et on a surtout cette question de la lutte de l'industrie par rapport à la nature hein, qui est très très présente dans Le Seigneur des Anneaux et chez Tolkien dans toute son œuvre de toute façon. Enfin, si vous vous en souvenez, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a d'un côté le magicien qui adore la comté, qui est voilà, le parangon de la nature, du bien vivre, du bien manger, tout va bien. Et en face, il y a un autre magicien, il s'appelle Saruman. Et lui, il taille des arbres, c'est tout dans la pierre et c'est l'avènement des orques. Parce que les humains et la nature, bon, ça va bien s'en.
Il y a vraiment cette dualité hein, chez Tolkien, effectivement, entre voilà, un peu l'environnement d'un côté et l'industrie de l'autre. Et effectivement, c'est jamais clairement dit, mais on, voilà, ça transpire dans tout le livre. Et puis, il y a autre chose, il y a cette idée de communauté, il y a cette idée du alors qui est presque christique, du coup, avec le plus petit, le hobbit, qui se sacrifie du coup pour les autres et qui est solide, alors, plus solide que les grands chevaliers. Quoi.
Alors ça, c'est un peu la morale du conte de Tolkien, si on peut appeler son œuvre un conte, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, même dans Le Hobbit. Hein,
bon, c'est un conte de 900 pages, hein, voilà.
Voilà, c'est du bon conte déjà, mais. Enfin, au final, c'est le petit hobbit, l'air de rien, que personne ne connaît. Enfin, personne ne sait que les hobbits existent. Enfin, c'est des créatures, quand on les voit, on se dit que c'est des tout petits nains, ils ont arrêté de grandir, quoi. Et en fait, bah, c'est eux qui sauvent le monde. Donc c'est sympa quand même comme morale.
Il y a plein de morales effectivement un peu cachées dans Tolkien. Donc non seulement c'est les plus petits qui sauvent le monde, mais en plus il n'y arrive pas tout seul. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il est aidé par son ami Sam, qui est en plus le serviteur de Frodon, qui arrive. Il y a une relation fraternelle entre les deux aussi.
Et pas que. C'est-à-dire qu'effectivement il y a Sam, cette relation fraternelle, et puis il y a toute une communauté avec des personnages qui sont des créatures d'horizons complètement différentes aussi. Je pense que Tolkien...
L'idée du racisme qui est belle entre les elfes et les nains, effectivement.
Les elfes et les nains, notamment. Ouais.
Puis des personnages surtout très emblématiques. On a le guerrier, on a le nain, on a la brute, on a le magicien, le grand sage, on a l'elfe, on a la personne intelligente, on a la personne courageuse.
Il y a quelque chose d'important qui est dit aussi sur la peine de mort, puisque, rappelez-vous, c'est Gollum, au final, qui en mordant le doigt de Frodon, va faire tomber l'anneau dans le feu. Et à un moment donné, il y a Gandalf, donc, qui est le gentil magicien, qui dit cette phrase à Frodon, parce que Gollum est en train de les suivre dans les mines de la Moria. Frodon dit « Mais quelle pitié que Bilbon ait laissé en vie ce Gollum !» Et Gandalf lui dit « Vous n'êtes pas capable de donner la vie, ne soyez pas trop prompt à l'ôter. » Alors, ce n'est pas la citation exacte, mais en gros, c'est le sens de la phrase. Et l'idée du magicien, c'est de dire « Attention à ce qu'on fait quand on rend la justice. » C'est-à-dire que si on décide de prendre la vie de quelqu'un par justice, eh bien, c'est terminé. Alors que si on laisse la personne en vie, il y a toujours une rédemption qui est possible. Et c'est bien ce qui se passe dans l'histoire de Gollum, puisque c'est grâce à lui, finalement, que l'anneau est détruit. Donc, il ne le fait pas par gentillesse, Gollum, mais c'est bien grâce à lui que l'anneau est détruit. Donc, cette histoire de rédemption, elle est quand même intéressante. Si on prend quelque chose qui est encore plus contemporain comme récit et qui va plus loin, qui va dans la science-fiction carrément, sur Star Wars, là, on n'est vraiment pas dans l'univers du conte. On n'a pas des elfes, on n'a pas des nains, on n'a pas des trolls. On est dans quelque chose de l'ordre de la science-fiction, mais on a aussi tous les ingrédients du conte. Alors, l'histoire, je vous la fais en deux mots. Un jeune homme avec son sabre laser, qui va se découvrir quelqu'un d'exceptionnel, à moitié chevalier, à moitié magicien, qui va finalement arriver à sauver plus ou moins la galaxie. Et qui, au passage, rencontrera des maîtres différents, devra passer des épreuves, rencontrera son père, etc. Ça, c'est l'histoire. Marjorie, le côté un peu éthique, un peu moral, qu'est-ce que George Lucas, dans les trois premiers Star Wars en tout cas, a voulu dire par là ? Il parle d'une grande fresque familiale, mais ça va plus loin, j'ai l'impression.
Déjà, je pense que George Lucas s'est shooté au Disney, mais toute son enfance, parce qu'il y a tous les éléments de tous les contes réunis dans la même histoire. Star Wars, c'est juste, on prend tous les contes, on les met tous dans le même pot, vous mélangez un petit peu, vous touillez, vous assaisonnez, et hop, c'est prêt à servir. Clairement, enfin... Le concept de la quête initiatique, le petit jeune qui va être découvert, il vient de nulle part, il a de grands rêves. Finalement, il a sa chance, ça y est, il peut partir. Et dans les étoiles en plus, il y a quoi de mieux, hein. Franchement, niveau image, là, je ne peux pas faire plus fort que ça. Il y a la quête des origines aussi, il se demande d'où il vient, pourquoi on lui donne cette chance, on lui en apprend un petit peu plus, il croit qu'il a eu un père fantastique, en fait son père, attention spoiler alerte, c'est Dark Vador, pas de bol, c'est le méchant. Et au final quoi ? Au final Dark Vador n'est pas si méchant que ça, au final son fils arrive à le sauver, comme quoi les parents, vous avez beau les détester quand vous êtes adolescent, vous avez beau ne pas leur pardonner du tout quand vous êtes adulte, il arrive un moment où vous vous dites il n'est pas parfait, mais moi non plus, personne n'est parfait. Puis de toute façon, c'est mon papa à moi. Hein, donc, puis Dark Vador, il a la classe.
Il y a un truc très psychanalytique aussi là-dessus, ouais. Chloé. Finalement, ce jeune homme qui, idolâtre ses parents, et c'est ce que font tous les enfants. C'est-à-dire que pour l'enfant, les parents, c'est Dieu, entre guillemets, évidemment. Hein, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est le début et la fin, c'est des gens parfaits. Et puis vient l'adolescence. Avec ce moment où ce qu'ont vécu beaucoup d'adolescents, on déteste ses parents. C'est le fameux meurtre du père. C'est-à-dire qu'il y a besoin de tuer, entre guillemets, le père pour créer sa vie, pour aller plus loin.
Et puis après,
tout le côté oedipien. Et puis après, il y a le passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que ce que tu disais, Marjorie, je me rends compte que mon père n'est pas un super-héros, que mon père n'est pas un super méchant non plus, mon père ou ma mère, hein, mais là dans Star Wars, c'est Dark Vador. Et que finalement, c'est un humain avec ses doutes, avec ses faiblesses, avec ses forces aussi. Et puis encore une fois, ce message de rédemption très fort, puisque Dark Vador arrive à, à passer outre le côté obscur pour sauver justement son fils face à l'empereur. Donc c'est quand même quelque chose aussi où on a vraiment cette dynamique un petit peu du récit et du conte derrière qui est assez intéressant. Alors on pourrait vous en prendre plein d'autres, hein. On pourrait vous parler des super-héros, puisqu'il y a plein de choses chez les super-héros, voilà, qu'on prenne Spider-Man, Superman, Batman, sur la quête d'identité, sur qui est-ce qu'on est vraiment, comment on doit se montrer au regard de la société, toute la mythologie autour du super-héros, sur est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui doit faire le bien toujours à tout prix, quelles sont ses erreurs, quelles sont ses faiblesses.
Et puis très souvent en fait dans les derniers super-héros qu'on a pu voir, il y a le côté aussi très sombre, il y a très souvent un film sur le côté sombre des héros. Je prends l'exemple de Spider-Man à un moment donné ils viennent aussi à un moment donné dire que voilà, un super-héros, il a aussi ses zones d'ombre, il a aussi ses doutes, il a voilà, et que même le jeune premier à un moment donné peut aussi basculer très vite, et c'est les choix que font les héros qui font qu'on bascule. Je vais reprendre de voilà Star Wars, soit du côté obscur, soit de l'autre côté, mais c'est les choix qu'on fait, voilà.
Ce qui est amusant, c'est qu'on est vraiment là sur des contes du 20e siècle. C'est-à-dire que on retrouve pas tellement ça dans les contes de Grimm, les contes de Perrault ou d'autres, on ne trouve pas cette idée de j'ai du pouvoir et si j'ai du pouvoir, il y a voilà, possibilité de faire le bien ou de faire le mal avec. On est plutôt sur des parcours de vie, sur des choses qui sont racontées. Peut-être qu'il n'y avait pas cette même dynamique-là quand les contes ont été écrits, les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, est-ce que la problématique des 20 et 21e siècle, ce n'est pas justement de se dire bon, bah, ok, il y a toujours ce parcours de comment j'accède à la réussite, au succès, mais après, il y a aussi comment j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir-là, et de dire que la frontière finalement est mince entre faire quelque chose de bien et faire quelque chose de mal, et que c'est pas toujours simple de s'y retrouver, et qu'il faut pas non plus se laisser attirer par ces mauvais penchants entre guillemets. Dernière chose pour conclure, et puis on va parler encore des contes la semaine prochaine, mais on parlera plutôt de comment la culture geek s'inspire de ces contes-là. Il y a au cinéma en ce moment qui est en train de sortir un film sur les légendes arthuriennes, donc voilà, une dernière mythologie sur le roi Arthur, ça n'arrête pas. On n'a pas vu ni les uns ni les autres, on a vu un peu les bandes annonces. Il y a une de nos amies qui a envoyé un très joli texte, qu'elle a trouvé une très jolie critique du film, que je trouvais très très pertinente, sur le fait que cette légende arthurienne, c'était vraiment une relecture en fait de la légende arthurienne avec notre époque. Avec un Arthur qui n'est pas du tout comme on s'y attend d'habitude, qui est hyper bodybuildé, qui vient de la rue, donc voilà, qui est un chef de gang un petit peu, enfin voilà, des trucs un peu particuliers dont on ne s'attend pas du tout à voir dans la légende arthurienne classique. Mais vraiment, ce qui est intéressant dans le texte, dans la critique, c'était pas du tout voilà, vous avez craché sur la légende arthurienne, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est pas ce qu'on attend à voir. C'est plutôt une façon de dire bah oui, en fait, c'est à ça que servent les légendes, mais aussi les contes d'une certaine manière, c'est de dire bah, on reprend un matériau qui existe et comment est-ce qu'on peut parler de notre époque et critiquer notre époque avec un récit pour que ça passe mieux. Voilà, je pense que c'est tout l'intérêt des contes, c'est tout le lien que j'ai envie d'en faire avec les cultures geeks.
La légende arthurienne, on en parlera certainement la semaine prochaine aussi, mais ça dépend aussi qui l'écrit, c'est-à-dire que là, elle est réécrite des temps modernes, mais si on lit la légende écrite par Chrétien de Troyes, ou si on lit celle de Malory, je crois, hein, c'est déjà pas complètement la même chose. Forcément, et notamment sur la place des femmes. La place des femmes dans la légende arthurienne, c'est-à-dire que la place des femmes dans la légende arthurienne avant Chrétien de Troyes n'est pas la même que celle écrite par Chrétien de Troyes. On développera peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais déjà, en fonction des époques, c'est pas la même chose.
Finalement, s'il y a une histoire, derrière, il y a un but et il y a un message qui est volontairement fait passer par l'auteur. Donc ne vous arrêtez pas à l'histoire, allez creuser un petit peu plus loin. Et c'est vrai aussi dans la culture geek. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.
Salut.
Salut.